Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée, à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9 ou sur le web graphite.net. On se retrouve pour cette dernière après-midi du semestre autour du cours WE01, questionner le web, à l'UTC, dont le contenu est par ailleurs librement accessible sur librecours.net. On est pour cette dernière émission en direct en studio avec quatre étudiants et étudiantes, Gaël, Anaë, Jules et Bastien. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue. Aujourd'hui, vous allez présenter le résultat de votre recherche du semestre, articulé autour de grandes problématiques reliées au web et plus généralement au numérique. Avec les idées d'éducation populaire et d'esprit critique en tête, chaque binôme va vous proposer un passage en trois temps. D'abord, une vulgarisation d'un concept du cours, ensuite la synthèse d'un article scientifique ou d'investigation, et enfin l'articulation critique du concept et de l'article. Pour cette dernière émission, on va étudier deux aspects d'un même système économique appelé capitalisme de surveillance, où d'un côté, il y a des géants du numérique dont le modèle économique dépend de la récolte de données personnelles, et de l'autre, des États friands de données personnelles, le tout régulièrement en dehors des limites imposées par la loi. Gaël et Anaë, c'est vous qui commencez cette émission et vous avez traité la problématique suivante. Comment, au nom de la raison d'État, les nations utilisent-elles le numérique comme source d'information, mais aussi comme moyen de contrôle de population ? C'est à vous.
Alors, donc, nous allons commencer sur la première partie qui va concerner la surveillance de masse, notamment en Occident. Dans la nuit du 5 au 6 juin 2013, le média britannique The Guardian publie des documents classifiés soustraits à la NSA. Le responsable de cette fuite n'est autre qu'Edward Snowden, un ancien employé de la CIA affecté à la division des communications mondiales au siège de la CIA à Langley, en Virginie, et sous-traitant de la NSA. Ces documents montraient que la NSA espionnait massivement les communications téléphoniques et Internet de millions de personnes à travers le monde, souvent sans mandat, que des programmes comme Prism ou X-Keyscore permettaient d'accéder aux données d'entreprises comme Google, Facebook, Microsoft et bien d'autres, et même de certains dirigeants étrangers comme Angela Merkel ou François Hollande à l'époque, ou encore que les alliés des États-Unis étaient aussi surveillés. Pour illustrer ce propos, nous allons passer un extrait audio venant d'une interview de Edward Snowden sur France Inter, publiée le 16 septembre 2019.
Beaucoup, hein. Quand on pense à X-Keyscore, ça ne récolte pas de l'information. C'est Google pour espion. C'est tout un lot de programmes de liaison de la communauté de la recherche et de l'espionnage entre les États-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et le Canada. Toute chose qui est recueillie dans ces pays, toutes les choses qui sont interceptées, rentrent dans un paquet commun. Et au lieu de faire passer les données entre Londres et Washington, Washington et l'Australie, eh bien, on n'envoie que des demandes de recherche, parce que c'est très petit. Et tout rentre dans cet engin de recherche et ça nous est renvoyé.
La Cour fédérale du 9e circuit à San Francisco a déclaré que la surveillance téléphonique menée pour collecter secrètement des millions d'échanges était une violation de la loi régissant les opérations de surveillance du renseignement. Il est cependant intéressant de noter que si un jour cela devenait légal, est-ce que cela veut dire qu'elle est davantage légitime ? Dans cette partie, nous allons donc nous interroger sur cette notion de surveillance de masse et notamment sur les méthodes utilisées maintenant de renseignement de la part des États. D'après Amnesty International, la surveillance de masse non ciblée peut être définie comme l'espionnage des communications électroniques et téléphoniques d'un grand nombre de personnes, parfois de pays entiers, en l'absence de charges suffisantes. Les révélations suite à l'affaire Snowden ont suscité de nombreuses réactions et protestations, notamment par le gouvernement français de l'époque. François Hollande avait déclaré que l'espionnage entre alliés était inacceptable. Par ailleurs, on observe en France le développement de nouvelles réformes au sujet du renseignement. Tout d'abord, il y a le projet de loi relatif à la géolocalisation, adopté le 20 janvier 2014 au Sénat. L'objectif de ce projet de loi est de créer un cadre légal permettant la géolocalisation en temps réel lors d'enquêtes sous contrôle judiciaire. Ensuite, la loi Renseignement et son système de boîte noire a été adoptée en 2015. L'objet de cette loi est de donner un cadre légal aux pratiques de surveillance par les services français, qui existaient souvent de façon officieuse, et d'introduire la notion de boîte noire, donc qui sont des algorithmes qui analysent en masse les métadonnées pour détecter des signaux faibles de menaces.
Maintenant, on va commencer la deuxième partie. Donc, on va un peu quitter nos rivages occidentaux pour nous diriger vers la Chine, où on va se poser la question, quelle tournure semble donc prendre la Chine dans ses méthodes de renseignement et pourquoi ? Dans cet article que nous allons étudier, publié sur le site de la presse Ouzbek Erika en 2021, intitulé « Pourquoi la Chine s'en prend à ces géants du numérique ?», dont on va faire un bref résumé, l'auteur Pablo Maillet s'intéresse aux cas d'entreprises comme Alibaba, Didi ou Meituan, qui ont toutes subi différentes formes de bridage ou de contrôle de la part du gouvernement chinois. Tout d'abord, nous allons citer le cas de Jack Ma, et pour l'illustrer, ce propos, nous allons utiliser un extrait de RMC Découverte du 5 janvier 2021.
Le mystère en Chine, on le disait, où Jack Ma, le fondateur du site Alibaba, un des hommes les plus riches de la planète, a disparu depuis maintenant plus de 2 mois. Romain Cluzel, il a disparu depuis qu'il a critiqué le pouvoir en demandant une réforme de l'économie.
Premier signe de cette étrange disparition, l'absence de Jack Ma du jury de l'émission Africa's Business Heroes. En novembre, Jack Ma ne s'est pas présenté à la finale de ce concours d'entrepreneurs qu'il a pourtant lui-même créé. Autre signe alarmant, son silence alors que son groupe est dans la tourmente. Pékin a suspendu l'entrée en bourse de sa banque en ligne Ant et l'entreprise à l'origine de sa fortune, Alibaba, est sous le coup d'une enquête des autorités chinoises depuis le 24 décembre. Mais aucune prise de parole de Jack Ma sur le sujet, pas même un communiqué. Cette disparition des radars inquiète car plusieurs entrepreneurs chinois sont ciblés par les autorités du pays ces derniers mois. L'un d'eux, Ren Zhiqiang, a été condamné en septembre à 18 ans de prison pour corruption, quelques semaines seulement après avoir critiqué le dirigeant chinois Xi Jinping.
Il est à noter que Jack Ma est apparu quelques temps plus tard, quelques mois même, chantant les louanges du régime. Ensuite, on peut aussi citer l'exemple de l'entreprise Didi, l'équivalent de Uber. Peu après être entrée en bourse, elle subit un examen de la sécurité exigé par le Parti communiste chinois, qui alla jusqu'à exiger la fermeture de l'application sur les App Store. L'article cite pour finir l'exemple de Meituan, entreprise de livraison à domicile, qu'on ne décrira pas ici, mais que vous pouvez consulter sur l'article de CNN intitulé « Meituan, Tencent and Alibaba just lost hundreds of billions of dollars in market value ». Cet article décrit plus en détail cet événement. Donc, pour toutes ces entreprises, ces histoires se sont toutes terminées par des déclarations affirmant chacune leur coopération en renouvelant leur système de conformité. La question à laquelle tente de répondre l'article est avant tout dans quel but ces régulateurs chinois réalisent ces contrôles et régulations envers ces géants de la tech. L'article explore plusieurs possibilités, et notamment la première, qui serait la volonté de ce gouvernement de pacifier ses rapports avec la population chinoise. En effet, pour l'affaire Meituan, celle-ci avait débuté d'après Subchina avec une vague de mécontentement populaire quant aux droits des travailleurs. Le gouvernement voudrait également instaurer une certaine pacification entre ces entreprises jusqu'alors concurrentes. Par exemple, le ministre chinois de l'Industrie somma les entreprises Alibaba et Tencent de coopérer sous peine de sanctions. Une autre explication proposée est géostratégique. En effet, ce tournant pourrait refléter le désir de laisser un modèle à la Facebook, basé sur les réseaux sociaux, le divertissement numérique, les applications de jeux vidéo, etc., pour un modèle à la Siemens, basé sur l'industrie lourde et l'évolution technologique. En effet, selon Dang Wang, un des leaders étudiants lors de la manifestation de la place de Tiananmen, les applications comme Facebook ou WeChat ne sont pas pertinentes pour l'avancée du pays et même plutôt négatives car monopolisant les jeunes talents. Ainsi, selon ce raisonnement, un modèle à la Siemens semble plus pertinent à long terme et plus pratique pour le développement du pays. D'ailleurs, l'article cite Noah Smith qui affirme que ce choix de modèle, qui paraît plus durable, est en accord avec l'aspect émergent du pays. Noah Smith finit par affirmer que l'intérêt d'un tel choix est aussi géopolitique, car un tel modèle permet un développement militaire plus rapide. Alors maintenant, il est important de préciser que toutes ces conclusions sont hypothétiques et nous ne pouvons pas nous juger de leur véracité ou de leur pertinence n'étant pas experts. En revanche, nous allons essayer de retracer l'évolution de la place du numérique en Chine à travers l'histoire pour remettre dans leur contexte les décisions du gouvernement chinois. Donc nous allons faire ceci grâce à l'article de revue L'Internet en Chine entre État et opinion publique de Giuseppe Ricceri sur Kerninfo. Mais aussi pour permettre de comparer avec le modèle occidental et notamment américain. Donc premièrement, il est important de préciser que le gouvernement chinois a, dès les années 1998, soutenu le développement d'Internet, vu comme une fonction d'entraînement de la croissance économique et plus généralement de la modernisation du pays. Mais ils ont aussi vu le potentiel nocif que cela pourrait avoir sur la circulation d'informations jusque-là gérées par les médias. Internet étant devenu assez rapidement un espace d'expression et notamment de contestation du pouvoir politique. Plusieurs tentatives de régulation ont été essayées. Logiciel de mesure, de censure automatique de certains mots, obligation d'enregistrer son vrai nom sur Internet pour être retrouvé facilement en cas de communication illégale, ou encore censure de certains contenus sur Internet. Ces tentatives furent, dans la majorité des cas, des échecs, car ils étaient facilement contournables. On peut aussi citer l'armée des 50 centimes, qui était payée, en faisant la conversion, 88 $ 50 centimes, d'où leur nom, pour débattre sur Internet et ainsi dépeindre le gouvernement chinois sous son meilleur jour. De plus, les entreprises comme Facebook, Twitter, Netflix, qui refusent de suivre les recommandations nationales, ne peuvent plus entrer en Chine, ce qui engendra donc la création des entreprises comme Alibaba, Baidu, encore Tencent, qui respectent ces recommandations et qui sont d'ailleurs privées. Il y a donc deux faces au rapport entre la Chine et le numérique, selon Giuseppe Ricceri. Une face satisfaite de par les résultats économiques du numérique en Chine, et une deuxième face centrée sur l'aspect social, qui voit les effets négatifs sur l'ordre social lui-même et qui tente ainsi de contrôler les flux d'informations y transitant. Peut-être que les événements présentés dans l'article de Pablo Maillet précédemment s'expliquent par le fait que les gains économiques n'étaient plus suffisants pour compenser l'aspect social, engendrant ainsi un contrôle et une surveillance accrue des entreprises concernées par la Chine, mais aussi avec une meilleure adhésion aux valeurs culturelles de celles-ci, que l'on peut associer d'ailleurs à la notion de raison d'État.
Nous pouvons donc en conclure que, même si les méthodes sont différentes, les objectifs sont les mêmes. Réaliser un profilage de la population grâce à leurs données numériques. D'un côté, la Chine tente de censurer toutes les critiques du régime et plus largement la liberté d'expression, et tout ceci par le biais de la surveillance de masse. De l'autre, les États-Unis placent la liberté et de surplus la liberté d'expression au cœur de leur constitution, mais se servent de la surveillance pour lutter contre tout ce qui pourrait nuire à leur intérêt du moment, par exemple le rôle de la NSA et de la CIA. Nous pouvons donc remarquer que, historiquement, peu importe la nature du régime en place, qu'il soit libéral ou autoritaire, la surveillance de masse est un moyen d'auto-maintien des États, de sa culture qu'elle pense en général supérieure, morale, économique et plus globalement de ses intérêts. La raison d'État semble donc être une force supérieure qui agit non dans l'intérêt de la population, mais dans l'intérêt de l'État en tant que système global. Merci de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup Anaë et Gaëlle pour votre présentation et pour votre travail. On va pouvoir passer à la deuxième présentation, le temps de faire le transfert de micro. Je pense que c'est bon. Jules et...
Bastien,
merci, c'est la fin d'après-midi, c'est à vous.
La surveillance existe depuis longtemps comme un outil de contrôle social, mais avec le numérique, elle est devenue plus discrète, massive et rentable, et s'est étendue au secteur privé. Elle ne se limite plus à une simple observation, elle vise également à analyser, prédire et même parfois influencer les comportements humains. Aujourd'hui, certaines pratiques de surveillance ont pour finalité la production de capital à partir des données personnelles. On peut parler d'économie de surveillance. Christophe Massotti, historien des sciences et des techniques, qui analysait l'émergence et les mécanismes du capitalisme de surveillance, déclare « Les pratiques de surveillance obéissent aux impératifs de rentabilité. Elles transforment l'information en capital et non en pouvoir. Contrôler, c'est réguler. Surveiller, c'est observer et produire de l'information. » Sosana Zuboff, sociologue et auteure américaine, reconnue pour ses travaux sur l'impact du numérique et de la société, désigne ce modèle par le terme de capitalisme de surveillance. Dans son ouvrage « The Age of Surveillance Capitalism ». Ainsi, pour défendre notre vie privée, il est essentiel de comprendre les mécanismes en jeu, collecte, traitement et conséquences. Penchons-nous tout d'abord sur les processus de collecte de données.
La collecte de données s'effectue à très très grande échelle, sur les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les objets connectés ou même les sites web. Chaque clic, chaque interaction est potentiellement enregistrée. Les GAFAM, acronyme désignant les géants de la technologie dont Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft, ainsi que les gouvernements et les publicitaires, exercent une influence significative dans la collecte massive des données personnelles. Des données comme Google Analytics, utilisées par des millions de sites, permettent aux entreprises d'analyser les comportements des visiteurs tout en récupérant leurs données. L'intelligence artificielle accentue cette dynamique pour s'entraîner et améliorer ses prédictions. Elle a besoin de volumes croissants de données. La collecte des données se fait donc à très grande échelle grâce aux technologies numériques qui capturent chaque interaction en ligne. Cela amène maintenant à nous interroger sur le traitement de ces données.
Ce traitement des données est particulièrement efficace à grande échelle, surtout lorsque ces données sont regroupées par des acteurs spécifiques comme les grandes plateformes ou les data brokers. Les data brokers sont les entreprises qui se consacrent à la collecte de ces informations, souvent personnelles et provenant de diverses sources. Ils achètent, vendent et revendent ces données. Ces volumes de données, encore non traités, forment ce qu'on appelle les big data. Des IA les analysent pour repérer les signaux faibles, des comportements répétitifs, des réactions subtiles qui peuvent permettre de prédire des préférences ou intentions. Parmi les signaux faibles, on peut prendre l'exemple du mouvement d'un curseur ou la fréquence des clics. Ainsi, le traitement de ces données permet de cibler, influencer et anticiper nos actions. Mais alors, une fois traitées, quelles sont les implications éthiques de ce traitement ? Parlons-en dès maintenant.
Pour les GAFAM, les données collectées sont devenues un véritable levier économique utilisé pour mieux cibler et vendre des produits. Le comportement, l'âge ou encore les opinions politiques des individus servent à influencer leurs décisions d'achat ou d'action. Notamment pour changer ou renforcer l'opinion d'une population, voire les inciter à faire des choix. Par exemple, l'outil GitHub Copilot de Microsoft aide les programmeurs à écrire du code grâce à l'intelligence artificielle. Cet outil se base non seulement sur des codes open source, c'est-à-dire des codes accessibles à tous, mais aussi sur des dépôts privés qui sont des codes protégés, ce qui a suscité des débats sur le respect des licences et sur la confidentialité de ces codes. Ainsi, lorsque nos comportements et préférences deviennent des données exploitables, où se situe donc la frontière entre personnalisation et manipulation invisible ? Pour approfondir ce sujet, nous allons maintenant diffuser un extrait tiré de la chaîne YouTube Xerficanal, publié en 2020, dans lequel Ghislain Desland évoque certaines menaces du capitalisme de surveillance.
Télésurveillance, reconnaissance faciale ou traces numériques, la surveillance électronique semble chaque jour élargir le spectre de son influence sur la vie sociale. Il semble que nous n'échapperons pas à une surveillance généralisée de nos faits et gestes, car c'est le cœur même du moteur capitaliste contemporain qui impose de récolter des données en grand nombre pour perfectionner ses modèles. Pour Shoshana Zuboff, auteure d'un essai bientôt traduit en français, commenté dans le monde entier, Surveillance Capitalism, cette logique qui trouve sa source dans la Silicon Valley compose en fait un nouvel ordre économique mondial. Et alors qu'on le présente à tort comme inévitable, car nécessaire à l'interconnexion généralisée, il est en fait tout simplement destructeur à terme de toutes nos libertés et de la démocratie elle-même. En enregistrant toutes ces données sur nos recherches sur Internet, nos choix de photos, nos géolocalisations, etc., etc., Google en premier lieu et les utopistes intéressés que seraient les principaux dirigeants des GAFAM nous connaissent de mieux en mieux. Tandis qu'à l'inverse, nous ne saurions de moins en moins ce qu'il adviendra de cette connaissance accumulée. En fait, nous n'en savons rien du tout car tout le système de décision est foncièrement opaque. Qui décide ? Qui décide ? S'interroge l'auteur. Nous n'en avons pas la moindre idée.
Après cet extrait, nous allons nous pencher sur un article du blog Pixel de Tracking qui illustre l'évolution des pratiques de surveillance, en particulier celle de Meta. Quitte à faire un anachronisme avec l'article sorti en 2021, nous avons décidé de parler de Meta et non de Facebook, de son ancien nom, maison mère des réseaux sociaux Facebook, WhatsApp et Instagram. D'après l'article, Meta, en tant que géant des réseaux sociaux, joue un rôle central non seulement dans la connectivité entre utilisateurs, mais également dans la publicité numérique. Plus de 98% de ses revenus proviennent de la publicité, ce qui rend l'acquisition et l'optimisation des campagnes particulières publicitaire crucial pour la plateforme. La surveillance de l'entreprise s'étend même aux non-utilisateurs. Il suffit qu'un site implémente un outil de Meta pour être suivi à la trace. Nous pouvons prendre l'exemple de Meta Ads, qui est un outil publicitaire opéré par Meta, déjà implémenté dans une multitude de sites web.
Les auteurs de l'article introduisent la notion de signaux résilients, qui sont des indicateurs recueillis, même avec des limitations sur la collecte des données, tels que les navigateurs qui limitent les cookies ou les mécanismes de contrôle de confidentialité. Les données ainsi collectées au détriment de la vie privée des utilisateurs. Pour mieux illustrer cette notion, imaginons un utilisateur complétant un formulaire sur un site web, comme pour s'inscrire à un site ou acheter un produit. Le site peut décider d'envoyer ces informations à Meta, qui peut alors trouver une corrélation entre ces informations et votre compte utilisateur. Parmi ces données, on comptabilise numéro de téléphone, adresse email, voire des identifiants bancaires. Néanmoins, la surveillance de Meta ne se limite pas uniquement à l'univers du numérique. Grâce à des outils de conversion en ligne, ses partenaires, comme des magasins ou plateformes de e-commerce, peuvent relier achats physiques et données en ligne. Même les plateformes de e-commerce et secteurs sensibles, tels que les banques ou les assurances, peuvent transmettre ces informations via des systèmes intégrés de gestion client. Pour finir cette section, voici un deuxième extrait audio, cette fois-ci issu d'une conférence à l'UTC publiée en 2018 sur la chaîne YouTube Sous-Sol Productions. Dans cet extrait, Lionel Morel, alias Calimac, explique une technique utilisée par Facebook pour collecter les données utilisateurs.
Facebook, quand vous naviguez sur des sites internet, chaque fois que vous passez sur un site qui a le bouton like de Facebook, en fait, Facebook a la capacité de vous identifier parce que leur bouton like est une sorte de mouchard. En fait. C'est un morceau de leur site qui est déporté sur un site extérieur. Et donc, même si vous n'avez pas de compte Facebook d'ailleurs, mais si vous en avez encore plus, donc il repère et il va vous identifier même si vous n'êtes pas connecté à Facebook parce qu'ils prennent une empreinte de tous les paramètres de votre navigateur. Donc, quel est votre navigateur, quelles sont les applications que vous avez installées, à quelle adresse IP c'est lié, quels sont les paramétrages de votre machine, quelle est la résolution de votre écran, etc. Et ça leur donne un profil. Et donc du coup, vous voyez, donc des données qui paraissent complètement anodines, genre par exemple la résolution de votre écran, peuvent très bien vous identifier. Donc comment vous faites pour anonymiser un jeu de données quand on voit à quel point n'importe quelle information peut avoir un pouvoir identifiant ?
Aujourd'hui, les géants du numérique, dont les GAFAM, utilisent des méthodes indirectes pour collecter nos données personnelles, même quand on les pense protégées. Certaines de ces méthodes sont basées sur ce qu'on appelle les signaux faibles et les signaux résilients, et posent un véritable défi pour les organismes de réglementation, notamment au RGPD, qui vise à protéger nos données.
Les signaux faibles sont de petits indices de nos comportements numériques, comme le temps passé à regarder une publication ou la façon dont bouge notre souris. Pris isolément, ces données ne sont pas vraiment utiles, mais une fois centralisées et traitées, souvent grâce à l'intelligence artificielle, elles peuvent en dire beaucoup sur nous, nos habitudes, notre humeur, notre profil psychologique, voire nos intentions. C'est pourquoi les autorités commencent à agir. Par exemple, en 2023, Meta-Irlande a été condamnée à une amende de 390 millions d'euros pour avoir exploité ces données. Par ailleurs, les règles qui limitent la collecte de données compliquent la tâche des GAFAM. En plus de cela, la capacité de calcul et de stockage requise pour le traitement de ces données est monumentale et très coûteuse, et donne parfois lieu à des résultats laissant à désirer. C'est peut-être pour ces raisons que Meta utilise aujourd'hui une autre méthode de collecte, les signaux résilients.
Face aux limites des signaux faibles, Meta a développé une autre méthode, les signaux résilients, une notion clé introduite dans l'article. Il s'agit simplement d'informations persistantes dans le temps, telles que votre adresse email ou votre numéro de téléphone. Ces informations sont souvent inutiles par elles-mêmes, mais elles sont envoyées à Meta, souvent par des annonceurs qui les rassemblent et les associent à votre identité numérique. Par exemple, si vous faites un achat en ligne, votre adresse email, même encodée, peut être transmise à Meta, qui associe cet achat à votre profil numérique. Mais pourquoi le géant Meta utilise-t-il une telle méthode de collecte ? Tout simplement car il s'agit d'une excellente technique pour contourner la plupart des restrictions mises en place par les systèmes d'exploitation, navigateurs web, etc. Vous utilisez un adblock, obsolète. Vous supprimez régulièrement vos cookies, inutile. Mais ce n'est pas tout. Cette méthode permet aussi de contourner les restrictions imposées par le RGPD et d'autres organismes de protection des données. En effet, le RGPD, ou Règlement Général sur la Protection des Données, est une législation de l'Union européenne adoptée en avril 2016 et entrée en vigueur en mai 2018. Son objectif est de protéger nos données personnelles, nom, prénom, adresse mail, etc., et il s'applique à toutes les entreprises traitant des données personnelles de citoyens européens, quelle que soit leur localisation dans le monde. Le RGPD impose plusieurs règles aux entreprises, notamment la demande de consentement clair pour la collecte des données et la limitation stricte de cette collecte au nécessaire. Il s'agit d'un cadre théorique très protecteur, mais en pratique, il est difficile de limiter la collecte de ces signaux résilients. De plus, judiciairement parlant, la responsabilité repose sur les annonceurs qui décident de transmettre ces données à Meta.
Pour conclure, les signaux faibles, qui désignent les micro-comportements que les utilisateurs, et les signaux résilients, qui représentent la méthode adoptée par Meta pour collecter les données personnelles malgré les lois et les bloqueurs, soulèvent des enjeux importants en matière de vie privée.
Merci beaucoup, Jules et Bastien, pour votre travail et pour votre présentation. C'était la dernière émission du semestre, qui, pour rappel, est le fruit du travail des étudiants et des étudiantes du cours WE01 à l'UTC et du projet LibreCours.net. Elle était diffusée en direct depuis une studio de graphite le 18 juin 2025 et vous pourrez la retrouver prochainement en podcast sur tube.picassoft.net avec l'ensemble des sources utilisées. Merci pour votre écoute et bon après-midi.